I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Stéphanie Morand, vous venez d'écrire un livre et l'on vous décrit comme un médiateur ou peut-être comme un coach. Vous allez nous préciser tout ça, mais d'abord je voudrais que vous vous présentiez. Qui êtes-vous Stéphanie Morand ?
Bonjour Carole. Alors, qui je suis ? On a là quand même l'habitude de se présenter par notre activité professionnelle, donc c'est vrai que je vais rester pour l'instant là-dessus. Donc, je suis en effet médiateur, donc on dit médiateur E, c'est le féminin de médiateur, et formatrice, donc spécialisée sur toutes les thématiques de la relation interpersonnelle. Et je suis également l'auteur d'un livre publié chez Dangle qui s'appelle « Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits ».
Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Stéphanie, on va en parler de votre livre, mais je voudrais savoir quel a été votre parcours. Racontez-nous tout et on va démarrer, puisque vous adressez finalement aux enfants, on y reviendra, la proposition, elle est en direction des enfants notamment. J'aimerais savoir quelle petite fille vous étiez. Commençons par là.
Ah, c'est une jolie question. J'étais une petite fille assez rêveuse et assez réfléchie, qui adorait les livres. Et alors, malgré tout, j'y reviens. Je crois que d'aussi loin que je m'en souvienne, je m'étais dit, un jour, j'écrirai des histoires. Alors, pour l'instant, j'ai pas écrit d'histoire. J'en suis restée à mon champ professionnel. Mais j'ai vraiment ce souvenir précis. Et c'était vraiment aussi lui dédié, finalement, à cette petite fille que j'étais, ce premier livre, presque.
Alors, vous étiez une petite fille qui aimait les histoires. Très bien, vous avez grandi où ? Est-ce qu'on peut vous demander votre âge aujourd'hui pour qu'on vous situe bien ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai très bientôt 45 ans. Je vis près de Bordeaux et je suis native de la région bordelaise. Voilà, d'accord, donc je suis restée près de chez moi.
Voilà, donc là, on vous situe un petit peu mieux. Donc, vous étiez une fillette. On n'utilise plus beaucoup, d'ailleurs, ce mot. Alors, moi, je l'aime bien. Une fillette qui aimait les livres. Quel a été votre parcours ? Vous avez fait quel type d'études et comment en êtes-vous arrivée, finalement, à conseiller les autres ? Et après, on va évidemment, vous allez nous raconter ce qu'est ce conseil et pourquoi celui-là.
Alors, j'ai un parcours, alors au niveau des études, qui est un petit peu atypique. Je me suis cherchée, tout simplement. Je suis même passée par le génie micromécanique. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très atypique. Et à l'âge de 20 ans, je suis rentrée dans un service public. J'ai été pendant 14 ans technicien conseil dans une caisse d'allocation familiale. Et pendant ces 14 ans, j'ai vraiment cherché... ce qui pouvait me faire vibrer finalement dans une activité professionnelle, et j'étais vraiment passionnée par l'humain, et ça depuis toujours, pour revenir à la fillette, passionnée par l'humain, j'aimais beaucoup le juridique aussi, les questions sociales, les questions psychologiques, et donc j'ai cherché, et j'ai découvert le métier de médiateur familial, et là ça a été vraiment une révélation, j'ai dit mais c'est ça.
Comment vous l'avez découvert, ce métier ?
Ah, c'était simplement par un reportage à la télévision, en fait. Ouais. Tout simplement. D'accord. Et donc, j'ai fait les recherches. J'ai découvert le diplôme d'État à la faculté de Bordeaux. J'ai fait les entretiens de sélection. J'ai eu le bonheur d'être recrutée pour entamer ce cursus de formation qui a duré un peu plus de 2 ans. Et donc, je suis devenue médiateur. Enfin, j'ai été diplômée d'État en médiation familiale. Et il n'y avait pas de poste dans mon ancien métier. Donc, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, je pars. Je démissionne et qui vivra verra, comme on dit.
C'est-à-dire que là où vous travaillez, à la caisse, il n'y avait pas la possibilité de trouver finalement un emploi qui corresponde à la formation que vous venez de suivre.
Exactement, c'est tout à fait ça. Il n'y avait pas la possibilité de création d'un poste de médiation familiale pour moi. Donc voilà, il a fallu faire un choix et suivre cette passion-là. Et ce que j'ai fait maintenant depuis, j'exerce à mon compte maintenant depuis 12 ans.
Alors c'était quand même un sacré choix audacieux, parce que si je comprends bien, vous quittez une fonction relativement, on va dire, sécure, pour finalement le grand saut dans l'inconnu quand même.
Oui, complètement.
Il faut le dire. Là, c'est la série des audacieuses. Donc, ce que vous avez fait, je pense que beaucoup en rêvent, mais peut-être que beaucoup n'y arrivent pas. Donc, racontez-nous ce que vous avez vécu à ce moment-là. C'était sans doute quelque chose que vous avez fait facilement, j'imagine. Vous avez dû prendre le temps de la réflexion, bien sûr.
Alors oui et non, en fait, il a fallu que j'agisse aussi par impulsion quelque part, parce que sinon j'ai senti que je passerais jamais le cap. Donc un jour, la décision était prise, la lettre était faite le soir même et déposée au service ressources humaines dès le lendemain, en fait. Ouais. Ça a été vraiment une énergie de vie, quoi, de dire il faut que tu y ailles, t'es pétri de peur, mais c'est plus fort que tout, donc il faut y aller.
C'est bien que vous utilisiez ce mot peur, parce que finalement, on l'entend assez peu. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu le vecteur de l'audace, le fait de surmonter cette peur.
Oui, de surmonter et de ne pas lui laisser toute la place quelque part, de se dire oui, la peur, elle est là, elle a un sens et elle est légitime, mais elle ne peut pas continuer à diriger pleinement ma vie. Et y a plein de choses qui peuvent arriver derrière dont je n'ai pas conscience. Il faut y aller, quoi.
Comment a réagi votre entourage ? Parce que quand on prend ce risque-là dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une certaine forme d'insécurité de l'emploi, est-ce que vous avez été rassurée, aidée, confortée dans votre choix, ou est-ce que vous avez senti qu'autour de vous, il y avait quand même un peu d'inquiétude ?
Oui, il y avait beaucoup d'inquiétudes, bien évidemment. Oui. Après, l'idée, justement, c'est de ne pas se laisser parasiter par les peurs des proches, hein, des proches et des moins proches, d'ailleurs, hein, puisque c'est tout ça qui est renvoyé aussi, et de dire, ça, c'est ta peur, elle t'appartient. Moi, j'ai déjà les miennes à gérer, donc je ne me saisis pas en plus des tiennes. Mais oui, non, ça a été... Et en même temps, beaucoup de soutien et d'envie, de dire « waouh, tu le fais et ça nous fait envie, on admire un peu ça, quoi. »
Est-ce que la formation que vous avez suivie vous a aidé à prendre cette décision ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si elle m'a aidé à prendre la décision en tant que telle, mais en tout cas, elle m'a vraiment confortée et nourrie dans le sens de « c'est ça que je veux faire ».
D'accord. Non, mais parce qu'en fait, quand je vous entends précédemment dire, en gros, il faut faire la part des choses entre ces peurs et celles qui sont projetées sur nous, en fait, celles des autres, ça veut déjà dire qu'on sait un petit peu analyser le mouvement, je dirais, des intentions et je dirais, la parole de l'autre, qui n'est pas forcément d'ailleurs une parole négative, mais qui n'est que la projection de sa propre peur.
Ah oui, en ce sens-là, oui, complètement. Oui, c'est exactement ça, bien évidemment. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que la médiation m'a appris tout ça, en effet, à faire la part des choses entre la parole de l'un, de l'autre, etc. Donc oui, c'est tout à fait juste.
Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que vous avez été choisie au moment de démarrer cette formation ?
C'était mon parcours professionnel aussi, puisque pour intégrer ce type de diplôme d'État, il faut quand même avoir un vécu en lien avec la famille, le couple, l'accompagnement, le domaine social finalement. Et puis après, je sais qu'il y a une réponse que mes enseignants ont appréciée. Ils m'ont demandé si j'étais médiatrice, comment je gérerais telle ou telle situation. Ouais. Et j'ai répondu que j'en avais aucune idée. D'accord. Que j'avais lu des livres, mais que je ne me prétendais absolument pas en capacité de savoir, avant le démarrage, ce qu'était un médiateur.
Ça voulait dire que vous laissiez la part déjà à l'expérience, au terrain, et puis à l'écoute de l'autre, en fait, qui est vraiment primordial.
C'est complètement ça, complètement, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier d'accompagnement de l'individu, des individus qui sont uniques tant dans leur histoire personnelle que de couple, de famille. Et c'est vrai que le médiateur, il a un cadre important, une déontologie importante, et en même temps, il est face à des individus uniques. Et ça, il doit sans cesse l'avoir en mémoire.
Alors, toujours sur ce fil rouge de l'audace, donc vous prenez cette décision, vous faites un saut. C'était il y a combien d'années, en fait, que vous avez quitté votre précédent emploi après votre formation ?
Ça va faire 12 ans.
Ah oui, tout de même. Donc, vous vous installez, si j'ai bien compris, hein, vous allez nous raconter exactement comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Et puis après, on parlera du livre que j'ai sous les yeux. Alors, pour les entrepreneurs, notamment, et puis les entrepreneurs sans eux d'ailleurs, on ne discrimine pas, tout le monde peut nous écouter, évidemment, c'est avec grand plaisir. Comment ça a démarré ? Comment ça s'est développé ? Racontez-nous.
Alors ça s'est développé avec des allers-retours, des avancées, des retours en arrière, des succès, des échecs. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais avec toujours la certitude que c'était ça et plus rien d'autre. Il y a par exemple l'idée de mon cabinet de médiation, où là j'exerçais vraiment auprès des couples, que j'ai pris à la suite d'une rencontre. Donc c'était avec un thérapeute qui m'a proposé de partager finalement son espace professionnel. Et puis ça n'a pas pris, voilà, donc j'ai dû renoncer à ce cabinet, donc je me suis réorientée vers un peu plus de formation en entreprise, aussi parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, la transmission des valeurs de la médiation. D'accord. Donc voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça, des succès, des joies, des énormes peurs, des échecs. Et puis tout, comme je le disais, vraiment toujours la certitude que c'était ça et que malgré les difficultés, il fallait continuer.
Alors, j'ai sous les yeux un ouvrage qui s'intitule « Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits ». Alors, pourquoi cet ouvrage ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie ou besoin de délivrer une parole sous ce titre-là et avec ce contenu-là? Racontez-nous.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une co-auteure, donc qui s'appelle Cécile Gerst, qui est mon associée. Oui. Et lorsque on travaillait avec des adultes sur la question de la qualité relationnelle, de la gestion positive des conflits, à chaque fois, on avait le même retour, à savoir... Ah, mais si on avait appris ça des tout petits, ça serait tellement plus facile, etc. Donc, on a écouté et on s'est tourné vers l'enfance. On a commencé donc à travailler avec les structures scolaires et périscolaires pour former donc les enfants à la gestion positive des conflits. Et on travaillait uniquement par des jeux ludopédagogiques. Il nous manquait un petit outil, une petite méthode vraiment bien spécifique de la gestion des conflits que nous avons créée, qui s'appelle donc le SAPAS, qui fait l'objet du livre. Et c'est les professionnels, encore une fois, c'est eux qui nous ont amené cette idée-là de dire « mais cette méthode, c'est vraiment intéressant, nous ça, on a des résultats, etc., ça serait super d'en faire un livre ». Oh, bon, allons-y alors.
Vous avez trouvé un éditeur qui vous a fait confiance et qui a accepté de vous accompagner. Alors, moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez démarré votre activité au sein des écoles, quand vous êtes arrivé avec cette proposition, c'était une proposition finalement de cycle qui s'étalait sur combien de temps et auprès de quels enfants ?
Alors, c'était pour des enfants de primaire, donc à partir de 6 ans, et c'était des formations, c'est des modules qui duraient 3 heures, et on avait 4 modules de 3 heures, donc c'est une douzaine d'heures.
Et alors, comment vous vous présentiez par curiosité aux enfants ? Qu'est-ce que vous leur disiez ?
Alors, on utilisait notre terme professionnel, donc on commençait toujours les ateliers en leur disant que nous étions deux médiatrices, alors parce que mon associé est médiatrice et moi je suis médiateur E, voilà, donc on utilisait le terme de médiatrice, et on leur demandait, pour vous c'est quoi une médiatrice ? Alors, en général quand même, malgré tout, le travail était un peu fait avec les enseignants, donc ils avaient une petite idée de ce que ça représentait, donc la gestion des conflits, etc. Et ensuite, on enchaînait en leur indiquant qu'on allait faire des exercices et des jeux pour apprendre à mieux communiquer, à régler les petites disputes, etc.
Et alors, est-ce que vous avez des retours sur vos interventions ? de la part des professeurs des écoles notamment.
Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose. Nous, on s'est attaché à faire, hein, à avoir un suivi avec les professionnels pour vraiment se rendre compte, hein, des bénéfices ou pas de ce type d'outils. Et donc, en effet, vraiment, ce qui est vraiment fascinant et très impressionnant, c'est que les enfants évoluent très, très vite. C'est-à-dire que, contrairement à nous, en tant qu'adultes, où nous avons en effet des habitudes relationnelles profondément ancrées, donc il nous faut beaucoup plus de temps pour pouvoir dépasser nos fonctionnements habituels, les enfants évoluent, eux, très vite. Et donc, ils vont progresser sur leur capacité à entrer en relation, mais aussi à gérer leurs conflits de manière très impressionnante. Et on a en effet des structures qui nous indiquent que dès la première année de suivi de ce genre de programme, ils notent une véritable amélioration de l'ambiance de la structure. Moins de petits conflits qui dégénèrent, des communications qui sont apaisées. Donc ça, c'est vraiment des résultats qu'on a pu observer, nous aussi, quand on revient régulièrement dans la structure, prendre des nouvelles.
D'accord. Donc, vous sentez qu'il y a un vrai effet. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Vous m'avez parlé d'enfants d'école primaire, mais entre le CP et le CM2, il y a un gap, hein, il y a toute une vie. Donc, c'est plutôt auprès des très jeunes, des plus âgés, si on peut dire, des CM2, près desquels vous opérez. Et est-ce qu'il y a une différence s'il y a un écart d'âge?
Alors, nous, notre objectif, alors on a commencé à travailler vraiment en classe, à intervenir, et donc on ciblait plutôt le CE2, puisque ça représentait forcément un effort financier, hein, pour les structures, donc on ne pouvait pas intervenir sur toutes les classes, donc on intervenait plutôt sur le CE2. Donc comme ça, vraiment, ils impactaient positivement tout le reste de la structure. Donc on considérait que c'était l'âge cible. Avec les petits, on l'a fait aussi, donc avec les CP, on le faisait aussi. Moins avec les CM2, puisque c'est moins pertinent pour la structure, en effet, puisque les enfants vont partir. Mais du coup, quand on a, par rapport à tout ça, on a un petit peu réorienté notre proposition. On a plutôt formé les adultes à la méthode. D'accord. Parce que notre objectif, c'est qu'avec une formation de 2 à 3 jours, eh bien, les professionnels, ils étaient outillés de la même manière. Et donc, ils pouvaient transmettre année après année.
Bien sûr.
Le programme. Donc là, c'était beaucoup plus pertinent pour nous de travailler sur cette façon-là, pour avoir un impact encore plus important. Mais sinon, en effet, nous, quand on intervenait, c'était vraiment auprès des CE2.
Alors, lorsque vous intervenez auprès des pédagogues, hein, on va les appeler comme ça, est-ce qu'il y a une grande variabilité entre les uns et les autres? Il y a une grande différence en termes de réception du message que vous passez. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la fin de ces modules? Quelles sont les remarques un peu récurrentes qui reviennent de la bouche des adultes?
Alors, je pense qu'on a beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'en général, quand on intervient, on est toujours avec des professionnels extrêmement motivés, qui ont envie de cette démarche-là, qui sont déjà très engagés dans ce genre de programme-là. Donc forcément, ils sont extrêmement bienveillants, à l'écoute et positifs, hein, dans la réception de ce genre d'outils. Ce qui revient régulièrement, c'est ce que nous disent aussi les enfants, à savoir « Ah, mais tout le monde devrait faire ça ». C'est vraiment une récurrence, je pense que, mais ça parle du collectif, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on a, je crois, collectivement, on le ressent, ce besoin-là d'avoir un collectif apaisé où la discussion peut s'engager malgré des points de vue complètement opposés, mais s'engager de manière sereine, dans un objectif d'être plutôt dans le gagnant-gagnant, même si c'est un terme un peu galvaudé parfois, mais en tout cas avec une certaine forme de respect et de sérénité. Je pense que ça, c'est partagé collectivement, et c'est ce que nous renvoient les enseignants, à savoir, mais si on fonctionnait tous comme ça, ça serait quand même assez chouette.
On est dans un contexte assez particulier, celui du Covid, hein, ou de la Covid. Est-ce que vous aviez déjà travaillé auprès de ces publics avant les confinements successifs? On sait que le confinement a rapproché parfois les parents et les enfants, parfois ça a créé des tensions, voire des ruptures. Est-ce que vous avez pu faire ce travail d'observation d'avant, pendant? J'ose dire après, je ne sais pas si je ne suis pas trop audacieuse, mais en tout cas, dans cette période de 3 ans, quasiment, en tout cas, on va démarrer la 3e année, qui était un petit peu, d'abord, bourrée d'incertitudes, et puis, très, alors je vais le dire positivement, très stimulante pour les familles.
Alors, nous, on a travaillé largement avant, en effet, pas pendant. tout simplement parce que c'était pas possible d'avoir des intervenants extérieurs pendant cette période de crise. C'était beaucoup trop compliqué pour les structures. Puis c'était même légalement pas possible de toute façon. Donc ça n'a pas été possible. Donc je peux pas vous amener une réponse par rapport à ça. Après, on a beaucoup d'espoir en effet de reprendre. De mon côté, j'ai gardé les formations en entreprise et donc auprès des professionnels, pour le coup pas spécifiquement professionnels de l'enfance, mais professionnels au sens large. Cécile a gardé, donc mon associé a gardé des médiations. Donc oui, ce sont des constats qu'on observe, mais je vais pas avoir une finesse d'analyse par rapport à ça, vraiment spécifiquement dédiée aux professionnels de l'enfance.
Vous nous direz après, peut-être, Stéphanie, dans quelques, avec grand plaisir. Dans quelques mois ou dans quelques années, peut-être à l'occasion d'un autre livre, en tout cas, ou d'un autre outil, la façon dont vous avez senti l'évolution sur un terme un petit peu plus long des familles et puis la communication au sein des familles qui est tellement essentielle. Quel est votre prochain challenge, votre prochain défi? Vous en avez forcément un.
Oui, je pense que c'est le second livre, en effet, déjà. Et puis le faire vivre, justement, ce premier livre. Être avec vous est clairement été dans mes défis depuis longtemps. Avoir ce genre d'échange que je trouve extrêmement riche et passionnant, pour moi, c'est une satisfaction immense. Donc ça va, j'ai pas trop de défis en tête, je vis pleinement, je crois, déjà ce que m'apporte ce premier livre et la richesse de ces nouvelles rencontres.
En tout cas, moi j'ai le sentiment, et vous l'avez dit, que les adultes, donc parents, éducateurs et autres, sont quand même en attente d'outils accessibles, d'outils pragmatiques, d'outils de terrain, et je crois que c'est votre livre... À toutes les deux, je le précise, puisque cet ouvrage est signé Stéphanie Morand avec la participation de Cécile Gerst, si je le dis bien.
Tout à fait.
Je pense que ce type d'outil est quand même très demandé et si en plus il est appliqué, c'est formidable. En tout cas, si on a réussi à se l'approprier de la meilleure façon qui soit pour soi, je pense que vous rendez un service. Est-ce que vous avez ce sentiment d'abord d'utilité? Et puis, de faire avancer les choses à votre manière.
Oui, d'utilité, oui, clairement. Parce que c'est toujours c'est un bonheur immense, en fait. Je pense que nous, professionnels dans ces thématiques-là, de l'humain, par exemple, en tant que médiateur, chaque petit conflit qui s'apaise pour nous, c'est un bonheur, quoi. On se sent, en effet, utile, donc, par rapport à ça, oui. Et puis oui, c'est transmettre un message en effet aux enfants qui est quand même assez porteur de sens, parce que transformer notre présentation du conflit, se rendre compte que si l'autre il a un point de vue qui me semble opposé, ben c'est absolument pas mon ennemi, et au contraire on peut communiquer de manière apaisée et porteuse de sens. Donc oui, pour moi c'est un message qui me semble assez important pour les années à venir et pour la future génération.
C'est un vrai sujet d'actualité, même, on peut le dire. Le fait de créer, ou en tout cas de préserver des espaces pour que la discussion, et j'ose le mot, le débat, puisse avoir lieu. Vous ne croyez pas que c'est un sujet qui est encore plus d'acuité qu'il y a quelques années ?
Si, complètement. Si, mais ça, je le vis vraiment en formation adulte, avec en entreprise, avec les professionnels. Ça a vraiment une manifeste, cette dégradation au sein des entreprises et bien sûr des familles, des couples, de l'échange et du débat, ça, bien sûr. Oui.
Donc, il y a un vrai sujet. Le prochain livre sera peut-être pas dans une collection parenting, alors ? Peut-être
non.
Plus léger. On est d'accord.
Oui, vous avez beaucoup de.
Vous avez vu,
Moi, je
suis pour la gratter, moi. Donc, c'est ça ma
En tout
fonction.
Cas, vous avez un ressenti fort, en effet.
On va dire que j'ai un petit peu d'expérience. On va le dire comme ça. Le mot parenting, alors, un de mes derniers petits poils à gratter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot qui est apparu finalement assez récemment, peut-être au cours des 10 dernières années ? En tout cas, il n'existait pas dans le décorum de la parole en direction des parents.
Moi, pour être tout à fait honnête, ce terme-là, je l'ai découvert avec mon éditeur. Donc, vous voyez, donc ça, tout à fait, de manière tout à fait transparente. Après, je me suis pas tant interrogée que ça sur ce terme-là. Oui, il manifeste quelque chose de notre de l'évolution de notre société, hein. Voilà, mais.
Mais peu importe, peut-être, ce qui compte, c'est que les parents et peut-être les éducateurs et les enfants, évidemment, puisqu'ils en sont les premiers bénéficiaires, puissent avancer le plus positivement possible.
Oui, voilà, c'est, je vous rejoins complètement. À mon sens, finalement, ça met quelque part le doigt sur quelque chose. Ça, en tout cas, ça met en lumière un besoin par rapport à ça. Mais pour moi, de la façon dont je perçois vraiment ce genre de proposition, on n'est pas dans une injonction quelque part, parce que ça peut être une déviance qui peut être reprochée, hein. C'est peut-être ça que vous essayez de me...
Moi, je ne sais rien du tout, Stéphanie.
D'accord.
Ne m'attribuez pas des désirs. Moi, je suis juste là pour vous questionner.
Voilà. D'accord, pardon alors. Non, c'était moi, ma représentation, vous voyez, en fait. J'ai transposé, tout à fait. Donc, ma représentation, c'était peut-être se dire que... En effet, de nos jours, on entend certains termes comme une forme d'injonction, quelque part. Or, à mon sens, c'est tout l'inverse. Finalement, ces outils-là, qu'ils soient de communication dite bienveillante, de parentalité positive, etc., ils proposent un chemin aux parents et aux professionnels. Absolument pas un but à atteindre à tout prix. C'est un chemin sur lequel nous, on invite nos lecteurs à s'avancer, mais sans forcément dire c'est ça qu'il faut atteindre et rien d'autre.
En tout cas, c'est une belle invitation. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à d'autres personnes, femmes comme hommes d'ailleurs, qui auraient envie de suivre un petit peu votre chemin, celui de la conciliation, celui de comme vous l'avez dit, de l'accompagnement vers une parole plus fluide, plus apaisante, plus sereine? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là?
Déjà que si ça fait écho et si ça fait vibrer, il faut foncer. Très clairement, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement riches et porteurs de sens. Donc, se faire confiance et se dire que c'est vraiment ce que je répète à mes participants en formation. Si ça fait sens pour eux, c'est que ça ira, en fait. C'est qu'ils trouveront aussi leur chemin de développement par rapport à tout ça, qu'ils soient en effet simplement, entre guillemets, se former pour pratiquer et donc déjà être un super vecteur de sens pour leurs proches, leur famille, ou aller plus loin et en effet s'engager dans un processus de formation pour se professionnaliser et à leur tour accompagner dans ces thématiques-là.
Ben voilà des mots très encourageants et très empreints de sagesse. Je vous remercie infiniment, Stéphanie Morand, d'avoir bien voulu participer à ce podcast. C'est audacieux. Je vous le confirme, vous cochez les cases. Il n'y a pas de doute, la rencontre est heureuse et j'espère qu'elle apportera à la fois du réconfort et des envies à tous ceux, et notamment les parents, qui ont envie, effectivement, que le conflit soit toujours bien présent, mais qu'on puisse effectivement le surmonter, le contourner, en tout cas, en faire quelque chose de plutôt constructif. Est-ce que j'ai bien résumé votre proposition ?
Parfaitement, ça me convient à 100%. Merci beaucoup, Carole.
Merci beaucoup, Stéphanie. À une autre fois, avec plaisir. Au revoir.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.